Quand les voisins et la famille d'Élisabeth se sont réjouis à la naissance de l'enfant, est-ce parce qu'elle avait enfin un enfant, elle devenait mère, elle qu'on appelait la stérile? Ou bien est-ce parce que c'était un fils, un garçon? J'ai connu un militaire qui avait eu 8 filles. 8 filles. À la 6e, cet homme digne, bien élevé, n'a pas pu retenir un énorme juron. Il a continué, il a eu 2 autres filles, il s'est arrêté. 8 filles pour un militaire. L'évangile de ce dimanche raconte moins la naissance de Jean que son baptême. Son baptême au sens le plus fort du mot, c'est-à-dire le fait de donner un nom. Le nom par lequel Dieu nous appelle. Parce que Dieu nous appelle, parce que notre vocation est proprement divine. « Je t'ai appelé par ton nom, dit le Seigneur. » Il le dit au prophète Isaïe, qui le répète dans le passage que nous avons en première lecture. « J'étais encore dans le sein maternel, dans les entrailles de ma mère, quand le Seigneur a prononcé mon nom. Et il a suffi qu'il prononce mon nom pour que j'existe. Il parla et ce qu'il dit exista. » C'est comme ça que nous venons au monde, par la parole de Dieu qui se réalise. Ainsi devait s'accomplir la parole que l'ange Gabriel avait dite à Zacharie. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Sauf que c'est Élisabeth qui lui donne ce nom. C'est Élisabeth qui prend la parole contre la vie de tous. Non, il s'appellera Jean. Mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Et Zacharie retrouve la parole, ou plutôt il écrit d'abord sur une tablette, il confirme simplement ce choix. Bien sûr qu'il vient de Dieu, mais ce choix donné par Élisabeth elle-même. Par Élisabeth! Dans des catéchèses qu'il avait données en mars 1996, Jean-Paul II avait répertorié les femmes qui, dans l'Ancien Testament, préfigurent la Vierge Marie. Il avait dressé une liste symbolique, bien sûr symbolique, de 12 femmes, comme les 12 apôtres. Et il les avait réparties en 2 séries. Une première série de figures de l'enfantement des mères, et une deuxième série qui n'était pas simplement des mères, mais des héroïnes, des figures du courage, qu'il appelait des protagonistes authentiques de l'histoire du salut. Les 6 femmes, 6 figures de maternité sont Ève, bien sûr, Sarah, la femme d'Abraham, la mère d'Isaac, Rachel, la femme de Jacob, la mère de Joseph, tous 3 au livre de la Genèse, la mère de Samson, dont on ne connaît pas le nom au livre des Juges, Anne, la mère du prophète Samuel, et puis il ajoutait Rebecca, qui est la femme d'Isaac, la mère de Jacob. Et puis il avait repris 6 figures du courage, Myriam, la sœur de Moïse, la prophétesse Déborah, à laquelle s'associe Yaël, vous ne connaissez peut-être, ou vous avez oublié cette histoire qui se trouve au livre des Juges. 2 femmes qui ont donné leur nom à des petits livres de l'Ancien Testament, Judith et Esther. Et enfin, une femme ravissante, Abigail, qui a sauvé David d'un grand péché. 6 femmes qui sont 6 figures du courage et du salut, parce que Myriam a sauvé Moïse de la mort, les autres, Déborah, Yaël, Judith, Esther, le peuple de ses ennemis. Des figures maternelles et des figures prophétiques. Eh bien, Élisabeth, elle est les 2. Elle est mère. Femme stérile, enfin exaucée par Dieu. Comme Sarah, comme Rachel, comme la mère de Samson, comme la mère du prophète Samuel. Et elle est elle-même prophète, comme nombre de femmes du Nouveau Testament, à commencer, vous savez, par la vieille Anne, la prophétesse, qui, avec Siméon, assiste à la venue du Messie. Prophète, ça veut dire quoi? Prophète, ça veut dire qui porte une parole de la part de Dieu. On parle beaucoup de libérer la parole des femmes. Mais on fait par erreur de la Vierge Marie une femme silencieuse, une femme qui se tait. C'est quand même ignorer les Écritures. C'est oublier, par exemple, la scène de la visitation où on entend que ces deux femmes, Marie et Élisabeth, ces deux femmes qui offrent à l'histoire les deux plus grandes voix. Jean, la voix qui crie dans le désert. Jésus, la parole éternelle du Père. Si les deux fonctions, maternelle et prophétique, se rejoignent en Élisabeth comme en Marie, c'est-à-dire au seuil de la Nouvelle Alliance, en se tournant de l'histoire du salut, c'est parce que nous sommes tous, chacun de nous, dans notre humanité réconciliée, sauvée, révélée par le Christ, nous sommes à la fois des êtres de chair et des êtres de parole. Tous, chacun de nous. Et c'est ce qui est célébré au baptême, c'est ce qui fait la grandeur d'un baptême. Quand est donné devant Dieu un nom à un être de chair, quand est célébrée sa vocation divine, quand l'enfant est consacré, être de parole, bien sûr qu'il ne parle pas encore, mais on s'adresse personnellement à lui en l'appelant par son nom. Une des femmes les plus intelligentes de notre époque, dont je vous ai déjà parlé, une italienne, historienne et journaliste, Lucetta Scarafia, je vous avais parlé de son livre paru en 2016 après le synode sur la famille, vient de publier un nouvel ouvrage assez combatif contre le droit à l'enfant. Le titre, c'est « La fin de la mère ». Elle y regrette dans cet ouvrage que ce qui est spécifiquement féminin, le pouvoir féminin et maternel d'engendrer, de donner naissance, soit devenu aujourd'hui, ce pouvoir soit devenu un droit d'avorter. Comme elle est historienne, elle constate que l'introduction de l'avortement dans la sphère de la légalité, et non plus comme une dépénalisation, mais la revendication comme un droit, l'introduction de l'avortement dans la sphère de la légalité, réintroduit une distinction qui existait du temps de l'esclavage entre des êtres humains engendrés par la chair, c'est ce qu'étaient les esclaves, et des êtres humains confirmés par la parole, ce qu'étaient les citoyens, auxquels seulement était donné le droit de vivre pleinement. Et c'est à la femme aujourd'hui, quelles que soient toutes les pressions qui peuvent s'exercer sur elle, c'est à la femme qui est donné, non pas ce droit, mais ce pouvoir. Le pouvoir de dire si ce qui est en elle est un amas de cellules ou un être humain. Autrement dit, de confirmer par la parole ce qui est engendré par la chair. Le pouvoir des femmes n'est pas nouveau, il n'est pas nouveau non plus quand il s'agit de détruire. Il suffit de se souvenir d'Hérodiade, du rôle d'Hérodiade dans la mort de Jean-Baptiste, dont nous célébrons la naissance aujourd'hui. Le problème est davantage l'aptitude des hommes à écouter la parole des femmes quand il s'agit d'une parole de vie. Ne pas faire comme Pilate, au moment de la passion, que sa femme est en garde. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Voyez ici dans cette scène comment Zacharie est guéri, comment il retrouve la parole en suivant Élisabeth. Bien sûr, en faisant ce que l'ange lui avait dit, mais en suivant Élisabeth, c'est l'accord entre les deux qui le guérit. On parle aussi beaucoup de la place des femmes dans l'Église. Et on confond la plupart du temps la place des femmes et la place des laïcs. Je vous signale, en passant, que si la fonction des prêtres était si enviable, on aurait moins de problèmes de vocation. L'intérêt d'Élisabeth, c'est que son mari, Zacharie, était prêtre. De l'ancienne alliance, certes, mais prêtre. Prêtre et incrédule. Mais elle aussi était descendante d'Aaron Et surtout, dit l'Écriture, ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils les suivaient ensemble, tous les deux, unis par Dieu et pour Dieu. Nous connaissons tous des couples où l'un des deux seulement suit les commandements du Seigneur. Prions pour eux. Prions pour la partie croyante comme pour la partie incroyante. Ces couples, d'une certaine façon, sont le symbole de l'Église et du monde. Ils sont surtout le signe d'un amour différent de la part de Dieu. Croyez-vous, parce qu'il a choisi Marie pour donner naissance à son fils, que Dieu a plus de confiance dans la femme que dans l'homme ? Croyez-vous, parce qu'il a choisi des hommes comme apôtres et pour le représenter dans les sacrements, que le Christ a plus de respect pour l'homme que pour la femme ? Croyez-vous, parce qu'il n'y avait plus au pied de la croix que des femmes, qui furent d'ailleurs les premières au matin de Pâques, que l'Esprit-Saint a plus d'admiration et de gratitude pour les femmes que pour les hommes ? La grande leçon de l'histoire, c'est qu'hommes et femmes sont à égalité dans l'ordre de la sainteté et de l'amour. Le même pouvoir est donné aux hommes et aux femmes, qui est un pouvoir de prière. Qu'est-ce que ça veut dire un pouvoir de prière ? Le pouvoir de confirmer par la parole ce qui est suscité par l'Esprit. C'est ça la prière. Confirmer par la parole, dans notre parole au Seigneur, ce qui est suscité par l'Esprit Saint. Il ne suffit pas de confirmer publiquement par la parole ce qui est engendré par la chair. C'est ce qui est fait au baptême. Il nous faut également confirmer personnellement dans la prière ce qui est suscité par l'Esprit. C'est ça la vie chrétienne. À quoi sert-il d'avoir un nom si nous ne répondons pas quand Dieu nous appelle ? Je t'ai appelé par ton nom. Notre vocation est divine.